Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Regarde ailleurs. J'aime prendre le temps de partir à la rencontre de ceux qui ont une parole inspirante. Dans mon métier de photographe voyageur, je suis amené à rencontrer de nombreuses personnes et beaucoup me touchent. Mélanie fait partie de l'une d'elles. On s'est rencontrés dans un éco-village où nous avons partagé nos visions du monde et de la vie pour se rendre compte que nous avions un parcours similaire. Avec mon micro, j'ai voulu lui donner la parole dans ce podcast Regarde ailleurs. Mélanie, l'émission s'appelle « Regarde d'ailleurs ». L'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur soi et sa vision sur le monde à travers des rencontres, à travers des parcours de vie, à travers cette notion du voyage, de l'ouverture sur le monde, sur soi et sur le monde. Mélanie, avec moi, quelque part dans les montagnes vosgiennes, Mélanie rencontrait un stage dans un éco-village cet été. Donc tu nous parlais dans la présentation générale que tu faisais de toi, il y avait un cercle comme ça au début de ce stage et chacun devait prendre la parole pour dire quelques mots sur lui, sur ce qu'il était, sur ce qu'il faisait. Et tu as posé un mot qui interpellait beaucoup de gens dans l'assemblée, le mot ashram. Tu disais tu vis dans un ashram depuis plusieurs années. Les gens ont tourné leur regard vers toi, ont voulu en savoir plus. Je fais partie de ces gens-là qui ont envie de découvrir qui tu étais. Parce que derrière quelques années de vie dans un ashram, il y a tout un itinéraire de vie qui t'a amené à ça. Tu parlais de voyage, tu parlais d'Afrique aussi. Donc parole à toi Mélanie, on va revenir un peu dans un premier temps de cette émission sur ton itinéraire de vie et ce qui t'a amené à vivre le collectif.
Voilà, merci déjà de me donner la parole, Alexandre. Effectivement, c'est une vie pleine de surprises, cette vie. En fait, ça a vraiment commencé quand j'avais 18 ans. J'ai décidé de m'ouvrir pleinement au monde et je suis partie en Afrique. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure de la vie et d'aller voyager. Je suis partie dans le cadre d'une action humanitaire pour planter des arbres. Et je suis partie au Togo. Et là-bas, j'ai rencontré des personnes absolument merveilleuses qui m'ont pointé du doigt des choses que je voyais pas encore. Notamment la nature, notamment les plantes, notamment la spiritualité. Donc le voyage vers la spiritualité a commencé à ce moment-là. Et donc j'ai été très à l'écoute de ce qui se passait autour de moi, de cette nouvelle culture, de ces rites, de ces sourires qui étaient hyper impactants pour moi, parce que clairement dans ces petits villages du Togo, il y avait rien, il y avait pas de matériel, juste la vie, juste les gens, les échanges et des gens heureux. Donc ça m'a vraiment profondément impactée, touchée. Et donc ça a effectivement permis à ce chemin vers la spiritualité de commencer, surtout vers le chemin vers soi finalement, pour retrouver un petit peu cet espace où on est en joie, où le bonheur est simple et il est pas connecté à de la matière, à du matériel, mais il est vraiment à l'intérieur de soi. Et donc ça a commencé là-bas. J'ai rencontré une personne qui restera pour toujours dans mon cœur, dans ma vie, qui s'appelle Teach Vincent Dossou, si tu m'entends. c'est quelqu'un que j'aimerais retrouver et j'aimerais reconnecter avec lui, puisqu'il a été déclencheur de la suite dans son accompagnement, dans sa tendresse, dans son soin, dans son écoute, dans son accueil. Il m'a permis de découvrir les plantes. Tous les matins, il se levait, il allait méditer. C'était assez mystique pour moi. Il partait à 5h du matin, tout seul avec son encens. Et je le voyais revenir qu'une heure après, et complètement transformé, avec un visage complètement apaisé, illuminé. Et puis, il m'a pris sous son aile. Et il a senti qu'il y avait une demande, il y avait une résonance. Donc, on a cheminé un petit peu ensemble. m'a beaucoup parlé. Ça a été mon premier guide de vie, on va dire. Et donc voilà, tout a commencé en Afrique. Donc je suis rentrée avec une envie forte de me connecter aux gens, de me connecter à la vie, de comprendre mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis sur cette terre, c'est quoi ma mission de vie, comment je me place en fait en France dans une vie très matérielle, comment je me retrouve en fait dans tout ça.
Avant d'aller plus loin dans ton cheminement personnel ou spirituel, l'Afrique, pourquoi l'Afrique? Pourquoi tu as choisi de partir en Afrique et pas en Asie, en Amérique du Sud? Est-ce que tu avais dans ta famille peut-être des antécédents, des gens qui connaissaient ce continent? Pourquoi l'Afrique? Parce que ça laisse pas une jeune fille de 18 ans indifférent quand même comme pays, notamment le Togo.
C'est vrai, écoute, y a pas de raison réelle, je crois que c'est surtout un appel en fait, je fonctionne beaucoup comme ça, donc je crois qu'il y a eu un appel très fort vers l'Afrique. Je suis partie avec une amie et elle était connectée aussi à l'Afrique, non pas de sa famille, elle avait aucune raison en fait spécifique non plus pour aller là-bas, mais je crois que c'était un appel du cœur pour toutes les deux. Et voilà, on aimait la danse africaine, on aimait les percussions, on avait une vraie joie, une vraie envie d'aller découvrir la culture africaine en fait, donc c'était basé sur ça.
Est-ce que tu as eu l'occasion d'y retourner depuis ?
Eh bien non.
Qu'est-ce qu'il te reste des années plus tard de l'Afrique quand tu penses à ce continent? Peut-être des adjectifs comme ça qui te viendraient à l'esprit.
Surtout la connexion à la terre. Avant d'être un adjectif, c'était plutôt vraiment la connexion à la terre. Je suis arrivée là-bas, j'ai senti cette vibration de la terre très puissante, une terre rouge, quelque chose de mystique qui te déconnecte complètement d'une réalité vraiment matérielle. On est dans toute autre chose. Qu'est-ce que je dois à l'Afrique? Je dois le sourire, je dois la générosité, je dois l'accueil, une transformation profonde, et la joie, la danse, la musique, les rires, les contes, les soirées auprès du feu, les rites, les danses d'accueil, le chef du village qui se met dans son apparat pour t'accueillir, tout le village qui fait une cérémonie pour t'accueillir alors qu'on ne se connaît pas. Voilà, ils savent que deux blanches arrivent et il y a un tapis rouge qui se déroule pour t'accueillir. Donc,
ouais, une sorte de voyage initiatique dans ton itinéraire personnel qui t'a amené à tourner ton regard vers l'intérieur.
Exactement, ça a été les débuts. En fait, en rentrant en France, je pouvais pas reprendre ma vie là où je l'avais laissée, de la même façon en tout cas. Et donc, j'ai commencé à bouquiner. Je me suis dit, ok, il faut que je comprenne ce qui se passe, quels sont les enjeux. Je peux pas continuer ma vie comme je le faisais avant, même si j'ai toujours été quelqu'un qui était positive, connectée avec cette sensation d'avoir un ange gardien toujours présent et qui m'accompagnait et que tout allait être pour le mieux, ce qui est toujours le cas. Mais vraiment avec cette propension à aller se tourner vers soi et vers le plus grand soi en fait. Donc il y a eu cette quête du grand soi. Et donc ça a commencé par des bouquins comme L'éveil du Bouddha. En fait, celui-là, il a marqué une grande étape dans mon cheminement, parce qu'en le lisant, je me suis simplement dit « je veux recevoir l'éveil du Bouddha ». Donc voilà, je cherchais cette connexion spirituelle et donc c'était posé en moi, en tout cas, c'était très clair, c'était ce que je voulais. Je ne parlais pas d'illumination totale, je parlais pas de connexion totale comme ce que le Bouddha a pu traverser puisque c'est son enseignement, mais vraiment de pouvoir vivre avec cette connexion et de grandir à travers cette connexion et d'être relié en fait, tout simplement. Puisque je crois que quand on arrive sur Terre, on est relié et que la vie nous pousse ou pas à être coupé en fait de cette connexion au tout et le but pour chaque être humain, ce serait d'y retourner.
Ce que j'entends en t'écoutant, c'est comme si en naissant, on sait, et petit à petit, le contexte social et culturel va nous enfermer dans une forme d'illusion, et on oublie cette connexion du grand tout à laquelle tu parles, cette reliance finalement à quelque chose de plus haut, plus grand, plus profond, mais qui est là, mais qu'on a tendance à ne pas voir ou à ne plus voir.
Oui, exactement. En fait, j'y viendrai après, mais j'ai commencé la méditation quelques temps après à la lecture de ce livre. Et effectivement, ce que j'ai compris, c'est que quand on grandit, on accumule des conditionnements, des peurs, l'ego, le super-ego, à des identifications. On se construit une identité et en fait, on devient unique et c'est chouette, ça nous construit. Et en même temps, on est complètement individualisé et c'est là où on se coupe de tout en fait. On se coupe du soi plus profond et on se coupe de l'humain, des autres, de la nature finalement. Et tout l'enjeu, c'est de garder cette ouverture et de se reconnecter à ça, à cet espace.
Et donc toi, ta méthode, donc tu as rencontré la méditation, c'est ça ?
Mmh, ouais, complètement. En fait, j'avais 19 ans, je rentrais d'Afrique. J'ai fait un petit passage par Avignon avant d'arriver à Nantes. Et sur Nantes, je me baladais dans la rue, en fait, et je vois une affiche de Sri Mataji Nirmala Devi. Qui propose de recevoir la réalisation du soi. Et bingo, c'est évident, c'est ça. Ça répond en tout point à ce que je souhaite, en fait. Les mots sont exacts. Et c'était rigolo, à cette époque, je me pose devant l'affiche et je devais retrouver mes parents le week-end où la conférence avait lieu. Et je me suis posée devant cette affiche et il y avait l'image de Sri Mataji. Et j'ai commencé à avoir une conversation, en fait, intérieure, en me disant, mais je peux pas, c'est dommage, là, je dois aller voir mes parents. Et j'ai eu une réponse très, 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 très claire à l'intérieur de moi, en me disant, mais il n'y a aucun problème, tes parents, tu les vois quand tu veux. Ça, c'est la chance de ta vie, quoi. Ça, c'est le moment pour toi, en fait. Donc, c'était très, très clair. Donc, je me suis dit, OK, je fais le pas vers ça. Donc, j'ai, dans un hôtel, Gare du Sud, à Nantes, je rejoins cette conférence en après-midi et j'arrive un peu nerveuse. Je me dis, waouh, c'est quoi comme groupe, qu'est-ce qu'ils proposent, est-ce que c'est une secte, reste quand même vigilante, tu sais pas où t'es jeune, voilà, tu t'ouvres à tout ça, mais sois consciente d'où tu poses les pieds. Et en fait, je rentre et donc j'ai quelques personnes qui m'accueillent, vraiment un grand sourire. Un accueil qui me va. Donc je me pose, je m'assois, on me fait une introduction, qui est Mataji Nirmala Devi, quel est son enseignement. Donc son enseignement, c'est Sahaja Yoga. Sur quoi il est basé, sur l'éveil de la Kundalini, très bien. Donc voilà, on me raconte l'histoire globale et puis on me propose de faire ce qu'on appelle la réalisation du soi, donc ce petit protocole qui est très simple où on va poser les mains à différents endroits du corps qui vont permettre à notre énergie intérieure, cette Kundalini, de s'éveiller, de traverser les centres d'énergie et en traversant le dernier centre, la fontanelle, qui est située au sommet de la tête. On va de nouveau être en connexion, en fait. Donc ça paraît très simple sur le papier. Je me dis, bon, bah on y va. On essaye. Donc je joue le jeu, je ferme les yeux. Je me laisse guider dans cette méditation. Et puis là, grande, grande, grande expérience. Grosse expérience pour moi. J'ouvre les yeux une fois que c'est passé et je ne suis plus du tout la même. Je sens que mon cœur est complètement ouvert. J'ai une joie qui déborde. J'en peux plus. Il faut le dire, j'en peux plus, c'est n'importe quoi. Et je commence à réaliser que j'ai connecté à quelque chose de grand, sans vraiment le savoir, mais voilà, que c'était le début du chemin vers la libération finalement, c'est ça. Et de pouvoir sortir de ces peurs, de ces conditionnements, de tout ce qui faisait que je me sentais coupée, qu'il n'y avait plus de lien au tout. Et donc voilà, je quitte le lieu et je commence à appeler tout le monde, mon frère, ma famille, ma mère, les amis. Je suis là, mais les amis, j'ai trouvé, c'est ça, il faut que vous essayiez, c'est magique, c'est fabuleux. On se retrouve et voilà, et les gens n'ont absolument pas du tout percuté. ils n'ont pas senti ce qui s'était passé en moi et ce qui était normal, puisque j'étais la seule à l'avoir vécu.
Mais ils ont pu vivre aussi ce protocole dont tu parles, assister à cette conférence, avoir cet enseignement ?
Par la suite, oui. En tout cas, moi, j'ai pu leur transmettre, parce que la beauté de cet enseignement, en fait, c'est qu'on devient une bougie qui peut facilement illuminer les autres bougies s'il y a un désir, en fait. Donc c'est très, très simple, en fait. C'est donné à tout le monde, c'est en chacun d'entre nous, et c'est très, très facile de tout à coup se reconnecter à la vérité, en fait, à ce qui est plus grand.
Comment Comment tu définirais cette vérité ou cette notion d'absolu ou ce plus grand ou cette réalisation de soi? Est-ce qu'on peut essayer de mettre des mots pour essayer de parler à tous ceux qui écoutent cette émission?
Ok.
Parce que quelque part, j'imagine qu'on veut tous grandir, on veut tous aller vers ce chemin de l'éveil et du bonheur. On se rend bien compte que souvent cette notion du sens manque à nos vies.
Écoute, c'est assez vaste comme sujet, je pense qu'on pourrait en parler des heures, mais qu'est-ce que la source et qu'est-ce que ça nous apporte? Simplement, ça permet de lâcher prise, d'être en paix, d'être vraiment connecté au présent. En fait, on atteint cet état où on est dans le silence, et dans le silence, on est au présent. En fait, on n'est plus dans notre passé avec toutes ces idées qui pourraient nous tenir en arrière et nous retenir. Et on n'est pas encore en train de programmer et d'être dans le futur. En fait, on est vraiment vraiment au présent. Donc pour moi, voilà, ça c'est un des aspects auxquels on touche quand on se connecte au tout. Et surtout, ça vient naturellement éveiller toutes les qualités qui sont déjà présentes à l'intérieur de nous et qui sont parfois juste recouvertes de poussière. C'est comme si tout... En fait, c'est connecté. La Kundalini s'élève, elle traverse les centres d'énergie qu'on appelle les chakras, et chaque chakra a des qualités spécifiques, a des qualités propres. Et en fait, quand on est coupé et pas relié à cette source, en fait, on va simplement utiliser les qualités qui sont déjà installées. Mais toutes les autres, si elles ont été brimées dans l'enfance ou pour X ou Y raison, elles vont pas exister. Et en fait, quand on médite, cette Kundalini, elle monte, elle va nettoyer les centres d'énergie, les chakras, et en fait, elle va permettre de réactiver toutes les qualités qui nous sont propres. Donc je vais donner des exemples: l'innocence, la joie de vivre, la paix, la satisfaction, le sens des responsabilités, la dignité intérieure, la joie du cœur, la joie de l'esprit, l'amour, une communication douce, une communication bienveillante, le fait de pouvoir se pardonner, le fait de pouvoir avoir une belle estime de soi. Et en fait, toutes ces qualités, elles émanent naturellement, en fait, parce qu'on est dans l'intégration, en fait. On est connecté au tout, et ce tout, c'est l'amour absolu qui résonne à l'intérieur de nous, en fait. Et quand on est relié à ça, en fait, naturellement, la meilleure partie de notre être peut s'exprimer, en fait, avec les qualités qui nous sont propres, parce qu'on est quand même tous différents. Enfin, en tout cas, les qualités sont les mêmes, mais elles vont résonner de manière différente en fonction des personnes. Afternoon is hazy, river flowing. All around the sounds moving closer to them, telling them the story told by Flora, dreams they never knew.
Tu as 20 ans quand tu tombes sur cette affiche, ou 19 ans quand tu découvres cette affiche à Nantes avant d'aller à cette conférence de Sri Mataji pour découvrir Sahaja Yoga. C'était il y a 20 ans, t'as 40 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 ans?
Écoute, j'ai jamais arrêté Sahaja Yoga, en fait. C'est la seule discipline de vie au travers de toutes mes pratiques artistiques, au travers de toutes les pratiques que j'ai pu commencer, c'est la seule que j'ai gardée. Et en fait, elle fait plus partie de mes pratiques, elle fait partie de moi, en fait. C'est je fais un avec cette méthode, et en fait, elle est très simple. Tu médites. tu médites le matin, tu médites le soir, tu médites quand tu as envie. Et en fait, tu te relies à l'essentiel, et ça permet de vraiment s'introspecter, de regarder ce qui est pas encore clair, ce qui est pas encore résolu, de voir clairement, en fait, ce qui a besoin de plus d'attention. Et donc tu c'est un grand grand voyage intérieur, tu prends beaucoup beaucoup de temps à travailler sur toi et à harmoniser un peu tout ce qui se passe à l'intérieur pour être comme on dit la meilleure version de soi-même. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir une place après dans le monde, parce qu'on... Je crois que ça donne une vraie légitimité, dans le sens où ce qui est installé à l'intérieur peut prendre sa place dans le monde et résonner, puisque c'est authentique. Il y a une vraie forme d'authenticité qui me plaît dans ce cheminement. Et donc voilà, c'est 20 ans d'une vie à méditer, à profiter d'un collectif international, de connecter avec des gens dans le monde entier qui pratiquent cette méditation, de séminaires, de rencontres au niveau, autour de l'art aussi avec ces personnes. Voilà, c'est une communauté internationale très, très belle, très grande.
Ce mot méditer, donc il est connu hein, dans le langage courant, mais je veux bien que tu reviennes dessus. Qu'est-ce que c'est que méditer ? Comment tu le définirais et quelle est la technique que tu utilises pour méditer ?
Ok. Alors, méditer, pour moi, c'est rentrer dans cet état de conscience sans pensée. En fait, on arrête la visualisation, on arrête la concentration, on arrête la projection, on arrête la création de réalité, on arrête les intentions. On est complètement dans un lâcher-prise, dans un abandon, et on se laisse traverser, en fait, par cette énergie et par ce qu'elle veut nous donner. Donc, on n'est plus dans un mode de je prends, je contrôle et je conçois, mais vraiment dans un mode de j'accueille, je reçois et je deviens finalement. Et ça, c'est pour moi, c'est la méditation.
Et comment ? Donne-nous des clés. Si quelqu'un écoute cette émission et veut se mettre dans un petit coin tranquille et vivre une première expérience de méditation.
Tu peux la trouver partout en ligne, en fait. Tu regardes Sahaja Yoga et on va te parler de réalisation du soi, donc tu peux la faire en ligne, comme ça.
Sachant que quand on parle de méditation, il y a différentes méthodes, aussi méthodologie. Hein, méditer, tu parlais de faire le vide en soi, ça peut être aussi lors d'une balade en forêt, ça peut être en lavant la vaisselle, ou ça peut être en faisant plein de choses.
Mais en fait, je crois que c'est connecté, et l'idée de la méditation, c'est ça, c'est de pouvoir connaître le chemin pour être au présent, et après, c'est de le mettre en pratique quand tu épluches une carotte ou quand tu fais ta vaisselle, effectivement. C'est d'être toujours dans cet état, et quand tu es là, tu es bien. T'es pas en train de te juger, t'es pas en train de penser à plus tard. Tu vas pas te couper le doigt parce que t'es vraiment ce qu'on dirait aujourd'hui en conscience, mais t'es vraiment au présent en fait. Et c'est ça qui est important.
Être bien, c'est quoi ?
C'est être libre de ses peurs, de ses doutes. C'est s'affranchir de ses croyances en fait. Et c'est juste d'être à l'écoute, d'être très fort à l'écoute de ce qui se joue dans le présent. Surtout dans le présent en fait, puisque si on est à l'écoute de ce qui pourrait jouer dans le futur, en fait on est dans une projection. Et quand on est dans le présent, on est vraiment... oui, on écoute.
Mais c'est ça l'enjeu, parce que là on parle d'une dimension intérieure dans une vie qui est quand même très basée sur ce qui se passe à l'extérieur de soi.
Mmh. C'est vrai qu'on a tendance à croire que l'on est ce qu'on fait. Et ça peut être, c'est ça qui peut nous emmener au burn-out, c'est ça qui peut nous enlever de la réalité du moment présent en fait, puisqu'on se projette, on est toujours dans des besoins extérieurs pour nous combler. On a toujours besoin de l'extérieur pour aller bien finalement, pour être rempli. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout à coup s'arrêter de vivre et de contacter et de créer et de voyager et de vivre. Mais en fait, tout se passe vraiment à l'intérieur. En fait, on n'est pas dépendant de l'extérieur pour être bien. On est bien et donc on kiffe l'extérieur.
Ouais. Donc c'est compatible d'avoir une vie dans un système rythmé, économique, speed, souvent speed, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le temps, mais être bien avec soi.
Ah ouais, complètement, mais moi je pense que je suis un bon exemple pour ça, je travaille sur Paris, je suis dans l'événementiel, donc c'est la vie speed par excellence en fait, c'est le stress en permanence, c'est la pression, voilà, c'est l'organisation, c'est un rythme très très puissant, très saccadé, et même dans ça, on arrive à être juste là, posé, bien, et les gens vous voient comme une personne ressource en fait, parce qu'on n'est pas traversé par tout ce qui joue à l'extérieur en fait, on est juste là, on est bien et on peut répondre aux sollicitations quelles qu'elles soient, même si on a de nombreuses et que parfois elles sont challengeantes, mais on est dans cet état qui fait qu'on peut répondre en fait à ces sollicitations parfois bruyantes. Voilà.
Donc la méditation, une clé au bonheur.
Clairement.
Qu'est-ce que c'est que le bonheur ?
Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Écoute, pour moi, ça se rapproche de la liberté. on va coller le bonheur à la liberté. Le bonheur, c'est ne rien attendre. C'est juste s'y connecter, en fait, finalement. Puisqu'il est là en permanence, le bonheur. Il existe, en fait. C'est pas une quête. On n'a pas à aller le chercher, il est juste là en fait, donc faut s'ouvrir à lui.
Alors l'autre a une place importante aussi dans ta vie, puisque tu fais le choix de vivre la Sangha, vivre la communauté, vous habitez à plusieurs.
Oui, ça fait 10 ans maintenant que je vis en collectif. J'ai commencé dans une maison où nous étions 4, et là c'était comment expérimenter la magie au quotidien en fait. C'était un peu le thème de notre vie ensemble, c'était vraiment de... d'être pleinement dans le présent, pleinement dans cette magie et juste des exemples, bon, il y en a plein, il y a des comment la magie s'est révélée au quotidien, on pose l'attention sur ah mince, j'aimerais qu'il y ait ça dans la maison et boum, un coloc arrive et il répond à notre demande immédiatement et c'est sans se parler en fait. Donc on se rend compte que ça fonctionne en fait autrement que par l'échange verbal en fait, il y a quelque chose qui se joue dans le subtil. Et donc c'était un peu essayer de découvrir, d'être à la découverte de ça au quotidien. Aussi, le collectif, c'est un bon moyen d'introspection, un bon challenge pour se faire face. On peut rien cacher, en fait. On est en permanence au contact de l'autre. Donc, tout ce qu'on n'a pas encore pu dépasser, tout ce qui n'est pas résolu, s'expose encore plus, en fait, dans un collectif. Surtout dans un collectif qui a une démarche spirituelle, ou en tout cas une démarche de développement personnel et qui veut grandir et qui veut être honnête envers soi. Et donc voilà, c'est au quotidien, c'est des pratiques de méditation ensemble, c'est comment toucher les autres par la méditation aussi, comment accueillir. Donc ce sont des maisons où on accueille en permanence. Tous les jeudis à la maison, la maison s'ouvre pour accueillir des personnes qui ont envie d'expérimenter en fait cette forme de vie. C'est très riche, c'est un voyage en soi. Et ensuite, après cette maison à 4, je suis passée dans une maison à 10, et là c'était encore tout autre chose. Clairement, je crois que c'est pas forcément des personnes que j'aurais choisies. Si j'avais choisi une coloc, j'aurais choisi peut-être des personnes qui me ressemblent et avec lesquelles je vibre vraiment. Et là, c'était intéressant d'aller dans un dans un espace où c'est pas forcément des gens qui correspondent à des passions communes ou des... On est tous différents, c'est des cultures différentes, c'est des backgrounds différents, des backgrounds religieux différents, ce sont des façons de penser différentes et c'est extrêmement intéressant et passionnant d'arriver à connecter avec des personnes qui sont complètement différentes en fait.
Mais reliées par une pratique.
Mais reliées par la pratique, effectivement, c'est ce qui nous rassemble principalement. Après, comment ça se manifeste au quotidien, cette pratique, c'est l'accueil, l'écoute, de pouvoir s'aider dans les moments difficiles, de pouvoir être là les uns pour les autres, de s'accompagner dans cette évolution de vie aussi, de voilà, puis du fun bien évidemment, d'avoir des moments de vie où on est juste là et on vit une vie de famille en fait.
Mélanie, l'émission Regarde ailleurs donne la parole souvent à des voyageurs, ce que tu es aussi, tu fais partie de cette famille des voyageurs ou des voyageuses. Pourquoi tu voyages? Qu'est-ce que c'est que pour toi le voyage et qu'est-ce que ça t'a apporté?
Écoute, je crois que toujours dans cette même direction, le voyage s'est fait pour sortir de soi, pour aller découvrir ce qui se passe chez l'autre, de toucher au cœur de l'humanité chez les autres en fait. Donc pour moi, le voyage c'est ça, c'est aller à la rencontre de l'humanité, de cultures différentes, de personnes différentes.
La rencontre, la découverte de soi aussi à travers le regard des autres. Mélanie, dans nos parcours, on a tous des lectures inspirantes. Tu en évoquais une, l'éveil du Bouddha, au début de cette émission. On a tous des personnes qu'on va rencontrer qui vont aussi sur notre chemin quelquefois nous emmener dans une direction ou dans une autre. Quels sont les moments marquants et forts de ton existence que tu as envie de partager avec cet auditeur ?
Écoute, on l'a partagé ensemble. En fait, on a pu faire ensemble cette expérience d'éco-village à Sainte-Camelle et je pense que c'est une des personnes qui m'a touchée dernièrement et je pense que ça peut être le moment de parler d'elle et de peut-être donner la possibilité à des personnes de découvrir cet endroit en fait. On a participé à une semaine de stage à l'éco-village de Sainte-Camelle et sur place, on a eu un enseignement par rapport à l'écologie intérieure, la façon de se relier à l'autre, comment se connecter à l'autre, comment faire vivre une relation saine. Et du coup, un petit hommage à Dan qui nous a partagé sa vision et qui clairement résonne très fort en moi et on peut voir dans cet éco-village que ça fonctionne en fait. Ils ont réussi à mettre en place une façon de s'aimer en fait. Ils ont appelé ça les incontournables, les 7 incontournables. Ils ont créé une charte de vie en fait dans leur éco-village où où ils apprennent à s'écouter, à être dans la bienveillance les uns envers les autres. Déjà, une bienveillance envers soi-même. Et je pense que c'est très, très relié à ma pratique quotidienne aussi. Donc, ça me parle. Voilà.
Les clés du bonheur sont nombreuses, mais une que j'ai envie de partager dans cet échange, c'est moins de bien et plus de lien. Cette notion de lien, tu parlais d'écologie intérieure, vivre ensemble. Je crois que c'est vraiment vers ça qu'on devrait pouvoir aller pour retrouver cet équilibre intérieur.
Tout à fait d'accord, le lien. Il faut se relier.
Mélanie, merci.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle Regarde ailleurs. Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous!